Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Voici le sommaire. Il faut consulter Kengo Adondo, ancien procureur général de la République et l'un des artisans de la justice congolaise, pour guérir les maux qui rongent ce secteur. Déclaration du président du syndicat autonome des magistrats du Congo, Edmond Issoufa, l'a dit hier au troisième jour des travaux des états généraux de la justice à Kinshasa. L'Union africaine dit encourager le processus de Luanda pour restaurer la paix et prévenir les actes d'atrocité de masse dans l'est de la RDC. Déclaration hier à Goma de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention des génocides et autres atrocités de masse. Adama Dieng est en visite au chef-lieu du Nord Kivu. Et puis, l'invité de ce matin, Jimmy Kande, directeur Afrique francophone de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Cette organisation a tenu cette semaine à Kinshasa la conférence internationale sur le lancement d'alerte en RDC. Il s'agit des personnes engagées à la dénonciation des cas de corruption ou détournement. À tous et à toutes, bonjour. Les travaux des états généraux de la justice se sont poursuivis hier au centre financier de Kinshasa. Selon le président du syndicat autonome des magistrats du Congo et procureur de la République, on ne peut pas chercher à guérir les maux qui rongent la justice congolaise sans consulter l'un de ses artisans, Léon Kengo Adondo, ancien procureur général de la République, et Singa Oudjou, ancien ministre de la Justice. En posant le diagnostic des maux qui rongeaient et continuent de ronger la justice, le président du CINAMAC plaide pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats qui manqueraient de tout, d'après lui, pour mieux administrer la justice. Edmond Issoufa cite les mémoires de Kengo Adondo. On l'écoute.
On ne peut pas demander à un magistrat du parquet de rechercher les infractions sans frais de fonctionnement, encore au moins sans fonds secrets de recherche. On parle de la corruption. On parle du détournement. Mais si le fonds secret des recherches, les armes, on ne le donne pas, comment est-ce qu'il va découvrir cela? Un nouveau décorum pour la magistrature. Et là où c'est intéressant, il dit, avec le ministre Singa Oudjou, et plus tard comme président du conseil judiciaire, procureur général de la République, j'ai beaucoup attaché de l'importance à l'amélioration des conditions de vie et de travail du magistrat. Après l'adoption du nouveau statut, lequel prévoyait plusieurs avantages sociaux, nous avons tenu à ce que ces avantages soient une réalité vécue. Pour cela, nous nous sommes érigés en avocats des magistrats auprès du président de la République et de toutes les structures du parti. Il faut une volonté politique, donner les moyens au pouvoir judiciaire de pouvoir fonctionner.
Restons dans ce cadre des travaux des états généraux de la justice. Au troisième jour hier, les relations fonctionnelles entre les magistrats du parquet et le ministre de la justice ont été développées par le professeur Chibangu Kalala, avocat et professeur des droits. Sous les bruits de la salle composée des magistrats et auxiliaires de la justice et d'autres catégories de participants, le panéliste est acclamé par certains qui adhèrent à ces réformes proposées, tandis que d'autres le chahutent en signe de refus. Il propose notamment la suppression du Conseil supérieur de la magistrature en le remplaçant par le Conseil supérieur de la justice. Pourquoi? Le professeur Chibangu Kalala s'explique.
Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Troisième réforme. Il faut donner au ministre de la Justice le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat. Ces réformes nécessitent la révision de la Constitution.
C'est un dossier signé Jeff Ngoy Mulonda. Je vous le disais en titre, l'Union africaine dit encourager le processus de Luanda pour restaurer la paix et prévenir les actes d'atrocité de masse dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a déclaré hier à Goma l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention des génocides et autres atrocités de masse. Adama Dieng est en visite à Goma. Il a fait savoir au sortir d'un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu. On l'écoute dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangi.
Vous le savez mieux que moi, les atrocités criminelles ne naissent pas d'elles-mêmes. Et c'est pourquoi nous devons encourager le processus de Luanda pour que la paix s'instaure dans cette partie de l'Afrique afin que les populations puissent retourner à une vie normale. Vous avez été vous-même témoin de la réunion qui s'est déroulée il y a quelques jours ici à Goma et à l'issue duquel les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC sont à nouveau engagés à tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la paix, pour que cesse justement la commission des crimes qui sont extrêmement graves. Je vais rencontrer les populations déplacées pour leur apporter mon témoignage de sympathie et leur transmettre le message de compassion de l'Union africaine à travers son président Mohamed Moussa Faki.
Notez que durant son séjour à Goma, Adama Dieng doit rencontrer plusieurs personnes, dont les déplacés et les autorités de la MONUSCO. Entre-temps, en Ituri, les casques bleus de la MONUSCO assurent la protection des agriculteurs dans une quarantaine de villages dans les territoires de Djougou, Irumu et Mahagi. Ces forces onusiennes ont intensifié les patrouilles dans ces entités pour permettre aux paysans d'accéder à leurs champs pendant cette période de récolte. Cette opération dénommée « sécurité de récolte » va se poursuivre jusqu'en décembre prochain. Elle vise à écarter les menaces des groupes armés, indiquent des sources onusiennes. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Au moins 360 patrouilles ont été menées au mois d'octobre par les casques bleus de la MONUSCO dans plus de 40 villages en Ituri. Il s'agit notamment de Ladejo, Laoujo, Logotakpa, Ala, Sandou, Kujina, Djiba dans les territoires de Djougou, Bei, Mangiva, Olu, Ndenge, Budana, Anirumu, Echuber, Ame, Djalsabo, Amhagi. Ces opérations permettent aux agriculteurs d'accéder à leurs champs face aux menaces des groupes armés qui circulent avec leurs armes dans la région, mais surtout de récolter les produits agricoles dont les maniocs, les maïs, les haricots, les patates douces, les choux, les ananas et des lutins ainsi contre la pauvreté. Selon la société civile des Bahama Nord, ces vivres étaient chaque fois pillés par des hommes armés. Charité Banza, son président.
La MONUSCO a organisé des patrouilles et ça permet encore d'autres personnes là, qui ont besoin de descendre dans les champs, de cultiver, de défricher. Maintenant, les gens récoltent les produits. Il y avait les assaillants qui venaient de voler, puis ils venaient défricher dans la nuit. Mais en tout cas, publiquement, ça n'existe pas.
Ces patrouilles des casques bleus de la MONUSCO qui se déroulent dans le cadre de leur mandat de protection des civils vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2024. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Maniema, signalons la présentation hier par la police de 30 présumés bandits devant la population à la tribune centrale de Kindu. Après une opération musclée, la police a mis la main sur ces personnes, dont 16 ont été mis à la disposition de l'auditorat militaire. Cette action intervient après la multiplication des cas de vol à main armée, extorsion et vol des panneaux solaires d'éclairage public, ainsi que des lampadaires dans l'ensemble du Maniema. Florence Kizalunga.
Selon la police, ces actions des traques policières ciblées qui se sont déroulées du 5 au 8 novembre visent le rétablissement de l'autorité de l'État.
Pour lutter contre cette recrudescence, dans cette période de préparatifs de festivités de fin d'année, il a plu au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Maniema de monter des opérations de grande envergure en vue de démanteler les réseaux mafieux et de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la ville de Kindu et de la province du Maniema.
Dans ces cas sous examen, l'autorité provinciale recommande à la justice de faire correctement son travail. Moussa Kabankoubi.
Pour ces cas, jamais nous n'allons accepter des libertés provisoires. Ce que nous voulons, c'est que quand ces cas seront jugés, nous reviendrons encore ici pour les présenter et les transférer dans des prisons hautement sécurisées dans d'autres provinces.
Selon le rapport, les communes de Kasuku et Mikelenge étaient les cibles de ces bandits. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction la province de la Tchopo. Les enseignants des écoles publiques, dont les salaires sont payés par la Caritas diocésaine, courent toujours derrière leur salaire du mois de janvier 2024. Cela ne leur a été jamais versé, en dépit des multiples revendications auprès de leur agence de paiement. Alors que la Caritas décline toute responsabilité de cette affaire, les enseignants concernés tiennent mordicus à y voir clair. Jacques Moukonkolé.
Afin de tirer ce retard au clair, une délégation de la synergie des syndicats des enseignants du territoire de Bafoua-Sendé est arrivée mercredi dernier à Kisangani. Objectif, rencontrer les autorités de l'EPST et de la Caritas diocésaine au sujet de leur salaire du mois de janvier non encore payé. Tangbo Mayanga, leur porte-parole, n'exclut pas la possibilité de la reprise de la grève au cas où il n'y aurait pas de clarté dans cette affaire.
Nous avons repris le chemin de l'école avec l'idée que notre arriéré sera opérationnel. J'ai d'abord les amis enseignants pour dire que nous continuons à exercer. Moi, je pars à Kisangani. Peut-être il y aura des solutions. Dès mon retour, c'est là où on fera encore l'assemblée générale. Si les choses ne marchent pas, on va décider à l'assemblée générale avec les amis.
En réaction, la Caritas diocésaine explique ce retard par la dette du gouvernement congolais envers l'IFOD, une microfinance de l'Église catholique, déclare le coordonnateur de cette institution, l'abbé Ferdinand Batoubou.
Mais je ne sais pas comment ces gens de ma façon de ne comprennent pas. Le gouvernement libère seulement cet argent-là. Plus de 21 milliards de francs congolais. C'est à peu près 8 millions de dollars. On va aussi payer les enseignants, il n'y aura plus de retard.
Si le malentendu persiste, il y a risque que les enseignants mettent leurs menaces à exécution au grand dépit des parents et élèves. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Kwilu, les préparatifs des élections législatives partielles se poursuivent dans le territoire de Massimba-Nimba. Actuellement, la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs par la CENI est en cours dans chacun des 10 chefs-lieux des secteurs. La cartographie vient de prendre fin et les équipes travaillent d'arrache-pied. C'est ce qu'affirme l'administrateur du territoire, Emery Kanguma. Irène Mboma nous en dit plus.
Au regard de la manière dont ces préparatifs évoluent à Massimba-Nimba, l'administrateur de ces territoires rassure que les élections législatives nationales et provinciales auront bel et bien lieu en date du 15 décembre 2024 telle que prévue par la CENI. Enthousiasmé, Emery Kanguma lance ce message à la population de son entité.
À la population de Massimba-Nimba, d'avoir l'esprit sportif, c'est ça les élections qu'on attendait. Recevez tous les candidats qui vont faire campagne. La population ne soit pas manipulée par d'autres gens. C'est une élection qui sera crédible et transparente par rapport à ce que nous voyons comme travail produit par les agents qu'on a nommés de la CENI.
L'autorité territoriale appelle aussi les différents candidats à la paix et à l'unité avant, pendant et après les 10 scrutins.
Aux candidats, venez avec les messages de la paix, les messages de réconciliation. Cette élection ne peut pas nous diviser. Nous demandons l'unité territoriale, l'unité du Kwilu, l'unité des grands Bandundu.
Rappelons que les élections législatives du 20 décembre dernier ont été annulées par la CENI à Massimba-Nimba. Les actes de violence et de vandalisme, la corruption et la fraude électorale étaient à la base de l'annulation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Congo central, nous apprenons que le poisson chinchard s'est fait rare actuellement sur le marché et le prix prend de l'ascenseur dans les rares endroits où on peut le trouver. D'après le gestionnaire de AfriFood, entreprise œuvrant dans l'importation des vivres, l'une des raisons de cette rareté est le fait que l'État congolais décourage, selon lui, les entreprises qui importent les surgelés par la surtaxation. Pour remédier à cette situation, Joachim Kikufuila suggère au gouvernement de stimuler et financer certains opérateurs économiques nationaux pour l'importation des surgelés, dont les chinchards, poisson le plus consommé par les Congolais. Nana Plurish Mambo.
Les grands sites de vente en gros des produits surgelés de Matadi Sokine a fait presque 2 mois sans réceptionner des chinchards. Ceux qui y travaillent disent attendre l'arrivée des bateaux, lesquels malheureusement n'accostent toujours pas. À ce jour, seuls Socimex dispose des chinchards, mais ils sont des 16 plis, pas très prisés dans les marchés. Les responsables des rares des chambres froides qui vendent les poissons chinchards disent les importer des municipalités angolaises frontalières à la province du Congo central, dont Noki et Soyo. D'autres vont carrément dans d'autres chambres froides basées dans l'arrière-province pour les avoir. Cette rareté a fait galoper les prix de ces produits. Aujourd'hui, un carton de 18 plis qui se vendait à 113 000 francs se négocie à 150 000. À en croire Joachim Kikufuila, gérant de la Free Food, c'est depuis la fermeture des gales que l'importation des poissons chinchards pose problème au pays. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit des 18 mois de conflit civil qui secoue le pays. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les états de Guédaref et du Nil Bleu. Le Soudan fait partie des 16 premiers pays africains à introduire ce vaccin dans le cadre d'une initiative menée par le ministère fédéral de la Santé en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins.
L'invité.
La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique a organisé du 7 au 8 novembre à Kinshasa la conférence internationale sur le lancement d'alerte en RDC. Invité de Radio Kapi, le directeur Afrique francophone de cette organisation explique que la RDC nécessite une loi sur la protection des lanceurs d'alerte, ces personnes engagées à la dénonciation des cas de corruption ou détournement. Jimmy Kande, directeur Afrique de cette plateforme, s'entretient avec Blaise Dungalamaenda.
Bonjour, monsieur Jimmy Kande.
Bonjour.
En quoi consiste les lancements d'alerte?
D'abord, les lancements d'alerte est un acte qui peut être fait par tout citoyen qui travaille dans une entreprise publique ou privée, qui est témoin des activités illicites ou illégales qu'il décide de dénoncer parce qu'il veut provoquer un changement. Et depuis plusieurs années, nous avons travaillé avec des lanceurs d'alerte congolais, mais qui ont été victimes de représailles et qui ont été contraints à l'exil. Et il y a encore deux, Navi et Grady, qui sont condamnés à mort. Donc il était important pour ce pays qui fait face à des défis sur des questions de transparence et de bonne gouvernance de rappeler la nécessité de pouvoir traiter de la question du lancement d'alerte, de voter une loi qui puisse les protéger. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cette conférence, démettre les acteurs ensemble de façon à pouvoir promouvoir le débat dans la société. Et nous avons prévu également une session avec les parlementaires de façon à ce que eux, qui peuvent encore voter les lois, soit ceux qui vont suivre cette question au niveau du Parlement jusqu'à l'aboutissement d'une loi.
Si nous voulons parler des bilans depuis les débuts de cette année, combien de lanceurs d'alerte sont arrêtés, combien ont fui ces pays?
Alors nous travaillons sur l'ensemble du continent. Nous avons été contactés par quelques lanceurs d'alerte depuis les débuts des années. Ce n'est pas toujours aussi une tâche aisée parce qu'il faut prendre le temps de pouvoir analyser leurs révélations, les authentifier. On a eu en tout cas une dizaine de lanceurs d'alerte depuis le début d'année parce qu'il faut beaucoup de courage déjà à travers le Congo qu'on est en train d'analyser parce qu'il faut beaucoup de courage, comme j'ai dit, pour arriver à dénoncer des fois des activités qui touchent à des autorités puissantes.
Quand vous parlez d'une dizaine arrêtée ou ils ont réussi à fuir?
Ce sont des lanceurs d'alerte que nous avons accompagnés. Accompagnés, c'est-à-dire lorsque les lanceurs d'alerte viennent vers nous, on essaye de leur accorder une certaine protection et nous essayons de les accompagner dans leur démarche. Donc nous avons été contactés par certains d'entre eux avec qui nous sommes en train de travailler maintenant.
Quelle est l'importance que vous donnez à ces forums dans un pays comme la RDC où la situation des droits de l'homme fait encore débat?
Alors je pense que c'est une opportunité de pouvoir discuter de toutes ces questions. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pays qui sont là. Nous avons le Sénégal, nous avons le Burkina, nous avons le Madagascar, nous avons l'Afrique du Sud qui est là. Ce sont des pays qui ont des expériences par rapport à ces questions-là. Donc l'idée, c'est de relancer le débat et de voir comment est-ce qu'ensemble, en tant que société, nous pouvons répondre à ces questions qui va aussi notamment sur la question des droits de l'homme.
Avez-vous un message à lancer surtout aux autorités politiques?
Je pense que le président de la République l'avait promis. Et là, je pense qu'il est dans son dernier quinquennat. Donc je pense que arriver à tenir cette promesse-là serait une très bonne chose. Il y a encore deux Congolais qui sont à l'étranger, condamnés à mort, qui attendent en tout cas que le président de la République, en tant que magistrat suprême, qu'il puisse agir afin que la condamnation à mort de Navi Grady sur l'affaire Afriland puisse être annulée alors que le gouvernement a fini par trouver un arrangement à l'amiable avec l'homme d'affaires Dan Gertler et que ces derniers puissent avoir la possibilité de rentrer librement dans leur pays.
Ils sont exactement dans quel pays ?
Ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger actuellement, donc c'est tout ce que je peux dire.
Quelle est la situation des droits de l'homme selon vous ?
Non, je pense qu'il y a eu quelques déviations qui ont été signalées et cela a été mentionné par les amis de la presse. Et je ne pense qu'on ne cesserait pas d'arrêter, d'appeler le gouvernement à changer cette trajectoire parce qu'au regard de ce que nous avons vu les derniers mois, cela ne semble pas augurer une bonne suite.
Monsieur Jimmy Kandé, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Le directeur Afrique francophone de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rumouchinj, d'Eps Vita, à la mise en onde. Merci de votre attention.